sur des arbres. Et c'est le bon moment pour vous de commencer à vous demander ce que vous avez appris dans le cours, si vous avez appris quelque chose, si ce cours vous a été utile, si vous l'auriez fait différemment, si vous étiez à notre place, et si vous auriez souhaité apprendre d'autres choses. Alors, cette évaluation, elle est d'abord utile pour vous. Il se peut très bien que vous ayez l'impression d'avoir appris plein de choses et que vous vous ramassiez une bulle à la pale. Et dans ce cas-là, bah, c'est très bien, vous avez appris des choses, tant mieux, c'est votre évaluation qui prime sur la nôtre. Il se peut très bien, à l'inverse, que vous ayez l'impression de rien avoir appris et puis que, par une espèce de miracle, vous réussissiez à valider l'examen. Ça arrive aussi, et encore une fois, c'est votre évaluation qui doit primer sur la nôtre. Alors malheureusement, c'est la nôtre qu'on va mettre dans le transcript, mais votre évaluation est tout aussi importante. Cette évaluation, on vous demande aussi de nous en donner un petit compte-rendu. Et contrairement à ce que je vous avais dit au début du cours, cette année, l'évaluation, le sondage du cours est organisé par la direction des études. Donc vos délégués, je pense, sont en contact avec la direction des études, je ne les vois pas. Bon, c'est pas grave. Ils sont en contact avec la direction des études pour proposer des questions, mais le feedback que vous nous donnez sur le cours est pour nous très utile pour améliorer le cours l'année d'après. Donc, essayez de vous mettre, quand vous remplissez ce sondage, dans l'idée de faire des propositions concrètes. Si vous nous dites les caractères des transparents sont trop petits, il faut les agrandir, on sait quoi faire pour résoudre le problème. Si vous nous dites, bon, le cours, c'est pas mal, mais ça pourrait être un peu mieux, on n'est pas tellement en position de répondre sur ce genre de critiques qui sont un peu trop vagues. Aujourd'hui, le cours sera organisé en deux parties. Dans la première heure, on va voir ces deux algorithmes sur les arbres, plusieurs algorithmes de parcours d'arbres et ensuite la notion de fil de priorité. On avait déjà un petit peu parlé de fil de priorité quand on avait parlé des listes, mais là on va voir qu'on peut faire beaucoup mieux avec les arbres. Et dans la dernière demi-heure, c'est Stéphane Raidon, qui est l'un de vos enseignants en travaux dirigés, qui va vous parler un petit peu de la manière dont les arbres sont utilisés aujourd'hui en informatique. Et en particulier, ça sera un complément au TD que vous avez déjà commencé la semaine dernière sur les arbres. Donc les arbres ont un petit peu une réputation d'être à l'informatique ce que le triangle et la géométrie, c'est-à-dire la géométrie du triangle, vous savez qu'il y a de très très beaux théorèmes, je sais pas, les médiatrices sont concurrentes, etc. En même temps, on a beaucoup de mal à citer des résultats de géométrie du triangle qui ont été démontrés dans les 5 dernières années. C'est, disons, une branche de la géométrie qui est un peu stabilisée. Et les arbres ont malheureusement un peu souvent cette réputation. Bon, on a à peu près tout dit sur les arbres. Et j'espère que Stéphane Raidon va vous démontrer le contraire. Bien, alors commençons par le parcours d'un arbre. Donc vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait trois algorithmes sur les arbres qui allaient nous occuper. Les arbres de recherche, le parcours d'un arbre et les fils de priorité. La semaine dernière, on a parlé des arbres de recherche. Et donc aujourd'hui, on va parler de parcours et de fils de priorité. Donc, qu'est-ce que c'est que parcourir un arbre? Eh bien, c'est effectuer une même opération, P, qui peut par exemple être afficher le contenu ou se poser une question, est-ce que ce nœud a une propriété, à chacun des nœuds d'un arbre. Donc, vous avez un arbre, vous voulez vous promener dans l'arbre et passer une seule fois, une fois et une seule fois sur chaque nœud et faire quelque chose. Et donc, abstraitement, on appelle ça visiter un nœud. Et il faut penser, par exemple, qu'à chaque fois que vous visitez un nœud, vous affichez son contenu. Une autre possibilité, c'est vous demander si ce nœud est, par exemple, dans un arbre de recherche, si ce nœud contient la clé de l'objet que vous cherchez dans l'arbre. Donc vous voyez que si vous faites la même opération à tous les nœuds d'un arbre, et la différence qu'il peut y avoir entre deux parcours du même arbre est uniquement l'ordre dans lequel vous allez visiter les nœuds. Et donc, également, un arbre, une méthode de parcours, un algorithme de parcours peut se définir de manière plus abstraite, simplement comme un ordre total qu'on met sur les nœuds d'un arbre. Alors, le premier exemple de parcours d'un arbre, d'algorithme de parcours d'un arbre, c'est celui-ci, c'est le parcours en profondeur d'abord. Donc vous partez de la racine de l'arbre et vous descendez le long d'une branche, en général la branche la plus à gauche, c'est ce qu'on appelle un parcours en profondeur gauche. Et donc ici, vous passez du nœud 3 au nœud 1, du nœud 1 au nœud 5. Et quand vous ne pouvez plus descendre à gauche, eh bien, ou bien vous descendez à droite, ça sera le cas ici par exemple, ou bien vous remontez. Ici, vous êtes déjà descendu à gauche, donc vous ne pouvez plus redescendre à gauche, vous descendez à droite, puis à gauche. Ici, vous ne pouvez plus descendre, vous remontez. Ici, vous ne pouvez pas descendre à droite, donc vous remontez. Ici, vous avez déjà parcouru le sous-arbre gauche et le sous-arbre 3, donc vous remontez. Vous descendez à droite, maintenant vous ne pouvez plus descendre à gauche, vous y êtes déjà allé. Vous descendez à droite, vous descendez à gauche, vous remontez, vous descendez à droite, vous descendez à droite, vous remontez, vous remontez, vous remontez. Et vous voyez que vous êtes passé, non pas une fois, mais à peu près deux ou trois fois, sur chacun des nœuds. Donc par exemple, je descends, je passe une première fois sur le 1, je remonte, je passe une deuxième fois sur le 2, je remonte, je passe sur le 1, et je remonte, je passe une troisième fois sur le 1. Donc vous voyez que ce nœud 1, je l'ai vu trois fois, une fois en descendant, une fois entre le 5 et le 9, et puis une fois en remontant. Et donc, comme je veux visiter ce nœud une seule fois, il faut que je décide si l'opération P que je dois faire sur ce nœud, par exemple afficher le nombre 1, je veux la faire quand je monte, entre le moment où je suis descendu à gauche et le moment où je vais descendre à droite, ou après avoir visité les deux sous-arbres, c'est-à-dire en remontant. Et ça, ça donne trois parcours d'arbres, qui sont tous les trois en profondeur d'abord, qui sont tous les trois des parcours gauche, mais dont le premier s'appelle préfixe, le deuxième infixe et le troisième postfixe. Donc le parcours préfixe, c'est celui où je visite le nœud au moment où je descends. Donc par exemple, ici, je pars du 3, je descends, donc je le visite d'abord, et ensuite je descends, je visite le 1, je visite le 5. Là, je remonte, ce n'est pas le bon moment pour le visiter, je l'ai déjà visité de toute façon. Je descends, je visite le 5, je visite le 8. Donc ça va faire à peu près ça. 3, 1, 5, je remonte, 9, 8, 4, 2, 6 et 7. Donc voici l'ordre sur les nœuds qui est obtenu en parcourant cet arbre de manière gauche, en profondeur d'abord, de manière gauche et de manière préfixe. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais toujours un parcours en profondeur d'abord gauche, mais infixe? Ici, le 3, ce n'est pas le bon moment pour le visiter. Il va falloir d'abord que je visite tous les nœuds du sous-arbre gauche. Le 1, ce n'est pas le bon moment pour le visiter. Le 5, là, c'est le bon moment. Je le visite. Le voilà. Je remonte. Là, c'est le bon moment pour visiter le 1, parce que j'ai déjà visité tous les nœuds du sous-arbre gauche, mais pas encore ceux du sous-arbre droit. Donc, ça va faire 5, 1, 8, 9, hop, hop, là, il n'y a rien. 3, 2, 4, 6, 7, et voilà. Donc, vous voyez qu'ici, je retrouve les mêmes nœuds qui ont chacun été visités une seule fois, mais bien sûr, dans un ordre complètement différent. Et enfin, le parcours post-fixe. Là, vous voyez que je vais terminer par le 3. Donc, avant de visiter ce nœud, je vais d'abord aller visiter tous ceux du sous-arbre gauche et tous ceux du sous-arbre droit. Donc ça va donner ça, 5, 8, 9, 1, 2, 7, 5, 4, 1, et 5, 4, 3, ok 7, 6, 4, 3, pardon. Donc vous voyez, encore une fois, même nombre de nombres, seul l'ordre diffère. Et vous voyez que le parcours préfixe ne donne pas l'ordre opposé du parcours infixe. Qu'est-ce qui donnerait l'ordre opposé du parcours infixe? Ce serait le parcours post-fixe, mais droit, au lieu de... Donc il faut permuter la droite et la gauche. Donc vous voyez qu'ici, le préfixe n'est pas juste le contraire de l'infixe. Bien, comment programmer un parcours infixe? Et donc là, on a une... Donc comment programmer un parcours en profondeur d'abord? Et on va prendre comme exemple le parcours infixe, et je vous laisserai faire le parcours préfixe et le parcours postfixe, puisque les idées sont les mêmes. Et là, on a une nouvelle représentation des arbres. Donc on utilise les ronds et les segments comme on avait fait la semaine dernière, mais on représente des sous-arbres, des arbres entiers, simplement par des triangles. Donc ici, ça veut dire j'ai un arbre dont la racine est X, et dont le sous-arbre gauche est A, et le sous-arbre droit de la racine est B. Quels sont les arbres qui peuvent être représentés de cette manière? Parmi les arbres binaires, est-ce que tous les arbres ont cette forme? Alors, quel est l'arbre qui n'a pas cette forme? Il y a un seul arbre qui n'est pas représenté ici, c'est l'arbre vide. Donc ici, j'ai supposé que mon arbre a une racine, donc il est non vide. En revanche, tous les arbres non vides sont présentés de cette manière, puisqu'ici, je n'ai rien dit sur A et sur B, qui peuvent eux-mêmes être des arbres vides. Donc quand je suis dans cette situation où j'ai ici un arbre dont la racine est X et dont les deux sous-arbres sont A et B, comment faire pour faire un parcours infixe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'abord? Il faut d'abord que je parcours tous les nœuds de A. Une fois que j'aurai parcouru tous les nœuds de A de manière infixe, il faudra que j'affiche X. Et une fois que j'aurai affiché X, j'aurai plus qu'à parcourir tous les nœuds de B. Donc je peux décomposer le parcours de l'arbre en trois tâches, parcourir A, afficher X, parcourir B. Et dans quel ordre est-ce que je dois exécuter ces tâches? Eh bien dans celui-là, je dois d'abord parcourir A, puis afficher X, puis parcourir B. Et ça pourquoi? Parce que le parcours est... Oh oh! Pourquoi est-ce que je dois faire ça dans l'ordre A, X, B? Parce que j'ai un parcours infixe gauche. Si j'avais un parcours préfixe, le X serait d'abord. Si j'avais un parcours postfixe, le X serait après. Et si j'avais un parcours droit, le A et le B seraient inversés. Donc vous voyez que les six possibilités correspondent aux six parcours infixe, préfixe, postfixe, gauche et droit. Bien, ici je décide de faire A en premier. Donc A lui-même peut se décomposer en, par exemple, ici, d'abord un sous-arbre droit et la racine, et ici le sous-arbre gauche, que j'ai lui-même décomposé en une racine, un sous-arbre droit du sous-arbre gauche du sous-arbre gauche, et un sous-arbre gauche du sous-arbre gauche du sous-arbre gauche. Et donc je peux continuer comme ça à décomposer mon arbre en laissant ici le sous-arbre droit, en laissant ici la racine, le sous-arbre droit du sous-arbre gauche, la racine du sous-arbre gauche, le sous-arbre droit du sous-arbre gauche du sous-arbre gauche, la racine du sous-arbre gauche du sous-arbre gauche, et le sous-arbre gauche du sous-arbre gauche du sous-arbre gauche, que je peux lui-même encore décomposer. Mais il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que je vais tomber sur un arbre qui est réduit à une feuille. Donc à un moment, ici, je me retrouve, par exemple, si l'arbre qui était là était juste un singleton, quand je le décompose, eh bien, j'ai ici juste la racine et je n'ai pas de sous-arbre gauche et de sous-arbre droit. Donc, c'est-à-dire que je me suis trompé tout à l'heure. Ici, j'avais supposé que A et B étaient non vides. Et s'ils sont vides, bah, vous voyez comment je décompose. Je ne mets pas A ou je ne mets pas B. Donc, ici, quand je fais la décomposition, ici, si A et B sont vides, je ne les fais pas figurer là-dedans. Par exemple, si A est vide, j'aurai juste X et B. Et donc, comme ça, en arrivant à partir d'un certain moment où je vais juste avoir une racine, eh bien, je vais trouver ici un rond. Il se pourrait aussi que j'ai une racine et un sous-arbre droit, mais pas de sous-arbre gauche. Et à ce moment-là, j'ai trouvé un rond. Je sais que je suis arrivé au premier nœud que je veux visiter. Donc, je le visite. Puis après, je visite celui-ci. Ensuite, je retrouve un arbre qui n'est pas réduit à sa racine. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le décompose. Puis jusqu'à obtenir un rond, puis je visite ce rond, etc. Cette structure ici, quand est-ce que je vais m'intéresser à X et à B, par exemple? Bien, je vais m'intéresser à X et à B quand j'aurai complètement terminé de visiter les nœuds de tous ces arbres. Donc X et B dans cet ensemble, dans cette liste, X et B, c'est les premiers arrivés ou les derniers arrivés? C'est les premiers arrivés. Depuis le début, ils sont là à attendre. En revanche, lui, c'est le dernier arrivé. Et celui que je vais visiter en premier, est-ce que c'est le premier arrivé ou le dernier? Enfin, est-ce que c'est lui? Et donc, c'est le dernier arrivé. Donc, on est dans une situation où on donne priorité. Quand on doit parcourir cet arbre, par exemple, il sera parcouru avant celui-là, pour la simple raison qu'il est arrivé après. Donc, quand le premier arrivé est le dernier servi, ça veut dire que la structure que j'ai ici est une pile. D'accord? Dans une pile d'assiettes, c'est l'assiette que j'ai mise au sommet de la pile, donc c'est l'assiette la plus récente que je vais utiliser en premier. Donc, voilà comment parcourir un arbre. de manière infixe en profondeur d'abord. J'ai besoin d'une pile. Je commence par mettre mon arbre dans la pile. Et tant que la pile n'est pas vide, je récupère le sommet de la pile, que j'appelle B. Si B est nul, je ne fais rien. Si B est un arbre singleton, je le visite, c'est-à-dire j'affiche la valeur de V. Et sinon, eh bien, j'empile de manière à ce qu'il soit en attente d'être parcouru, le sous-arbre droit, la racine, qui ici est vue comme un arbre singleton, et le sous-arbre gauche. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un petit degré de liberté. J'ai décidé de mettre dans la pile, y compris les arbres vides. Si ici, B point droit et B point gauche sont des arbres vides, je les mets quand même dans la pile. En revanche, le prix à payer pour ça, c'est au moment où je dépile, il faut que je regarde le cas où l'arbre est vide, auquel cas je ne fais rien. Une alternative aurait été de ne pas mettre le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit dans la pile. Bien, si j'essaye de programmer ça, ici je l'ai programmé avec une boucle while, si j'essaye de le programmer de manière récursive, au lieu d'utiliser une boucle, vous vous souvenez, boucle et récursivité, c'est deux outils qui permettent en gros de faire les mêmes choses, et j'essaye de décrire récursivement ce que ça veut dire parcourir de manière infixe un arbre comme celui-ci. Alors, ça veut dire, récursivement, ça veut dire que vous avez le droit dans votre réponse d'utiliser l'expression « je parcours un arbre ». Donc, une manière de parcourir cet arbre, c'est de parcourir l'arbre A, puis de visiter le nœud X, puis de parcourir l'arbre B. Qu'est-ce que ça veut dire parcourir A? Qu'est-ce que ça veut dire parcourir B? Eh bien, c'est juste une description récursive de l'algorithme. Si je m'autorise à donner une définition récursive, je m'autorise à utiliser le mot parcourir dans la définition de parcourir, à condition que, à un moment, mon programme termine. Mais là, vous voyez que pour parcourir un gros arbre, je dis ça consiste à parcourir un plus petit arbre. Et donc, voici une autre manière de parcourir un arbre A de manière infixe. Si l'arbre est nul, je ne fais rien. Sinon, j'appelle récursivement la fonction parcours sur l'arbre gauche, je visite le nœud A et je parcours récursivement l'arbre droit. Donc vous voyez que ici, j'arrive à programmer en 5 lignes, ce qui, avec une boucle, m'en avait demandé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc la programmation récursive ici est plus concise. On verra qu'elle n'est pas forcément aussi efficace. Mais surtout, quelle est la différence entre les deux programmes? C'est que dans un des cas, j'ai dû utiliser une pile. Quand j'ai utilisé la boucle while, j'ai dû ici utiliser une pile que j'ai initialisée ici, que j'ai utilisée là, et re-ici, ici pour popper un élément, ici pour en empiler 3. Et vous voyez que quand je suis passé à la forme récursive du même algorithme, eh bien, la pile a disparu. Et donc ça, c'est un principe général, c'est que la récursivité permet souvent, non seulement de ne pas utiliser une boucle, mais ça, c'est normal, on utilise la récursivité à la place d'une boucle, mais bien souvent, ça permet d'éviter d'utiliser une pile. À l'inverse, si vous avez un programme récursif et que vous voulez le transformer en un programme itératif, bien souvent, vous devez introduire une pile. Donc pensez à ça, que la récursivité a un lien avec la notion de pile. La notion de pile disparaît quand on écrit un programme récursif et elle réapparaît si on transforme le programme récursif en un programme itératif. D'ailleurs, si vous tapez ce programme dans un compilateur, dans un éditeur et que vous le compilez ensuite, eh bien en gros ce qui va se passer, c'est que le compilateur va transformer ce programme en ce programme-là, en utilisant une pile, et ensuite va exécuter ce programme-là. Donc c'est quelque chose que vous reverrez en troisième année. La compilation d'un programme récursif demande d'utiliser une pile, et c'est parce qu'on utilise une pile dans la compilation et l'exécution d'un programme récursif qu'elle est devenue implicite dans le programme. Donc ce n'est pas qu'elle a disparu, c'est le fait que le programme soit récursif fait qu'on a besoin d'une pile pour l'exécuter, et donc que la pile est devenue implicite. Bien, passons au parcours en largeur d'abord. Donc, tout à l'heure, on était parti de 3 et on était descendu tant qu'on pouvait. Et donc ici, le 1 qui se trouve à gauche va être traité relativement tôt. Puis ensuite, le 5, le 9 et le 8 vont être traités. C'est seulement une fois qu'on aura fini complètement de visiter tout ce sous-arbre qu'on va attaquer le sous-arbre droit et donc le 4. Donc, que le parcours soit infixe, préfixe ou postfixe, il vaut mieux être à gauche de l'arbre, il vaut mieux être dans le sous-arbre gauche du sous-arbre gauche du sous-arbre gauche, plutôt que dans le sous-arbre droit du sous-arbre droit du sous-arbre droit. Donc ici, on avait, avec le parcours en profondeur d'abord, gauche, un algorithme qui était extrêmement discriminant sur la gauche et la droite. À l'inverse, un parcours en largeur d'abord va favoriser les nœuds qui sont le plus haut dans l'arbre, le plus proche de la racine, au détriment de ceux qui sont le plus bas dans l'arbre, le plus proche des feuilles. Donc ici, on va d'abord visiter le nœud 3, puis on va visiter le nœud 1 et le nœud 4, puis ensuite le nœud 5, le nœud 9, le nœud 2, le nœud 6, le nœud 8 et le nœud 7. Et ici, vous voyez qu'il y a, dans cette idée de largeur d'abord, une idée d'équité. Imaginez que vous ayez un arbre infini. Si vous le parcourez en profondeur d'abord, vous allez descendre, 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 descendre. Et peut-être un jour vous allez remonter, mais personne ne vous garantit, si l'arbre est infini, que vous allez un jour remonter. Donc vous avez une certaine possibilité dans un arbre infini que ce nœud 4 ici ne soit jamais visité, simplement parce qu'on a défini un ordre sur les nœuds de l'arbre et qu'avant ce nœud 4, il y a une infinité de nœuds. OK ? En revanche, si vous parcourez l'arbre en largeur d'abord, eh bien vous voyez que tous les nœuds vont être visités un jour. Puisque chacun des nœuds a une hauteur finie dans l'arbre, la racine a une hauteur 0, les nœuds 1 et 4 sont juste des enfants de la racine, ils ont une hauteur 1, ces nœuds-là ont une hauteur 2, etc. Et il n'y a pas de nœuds qui ont eux-mêmes une hauteur infinie. Et donc tous les nœuds vont être visités un jour, peut-être très tard, mais on est sûr qu'ils seront visités à un certain moment. Et donc c'est ça qu'on appelle la notion d'équité. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être visité en même temps, ça ne veut pas dire que tout le monde est égal, mais ça veut dire que tout le monde, un jour, va être considéré. Vous voyez, vous avez la même chose si vous essayez d'énumérer tous les nombres entiers. Si vous vous dites, je vais d'abord énumérer tous les nombres pairs, et quand j'aurai fini, je vais énumérer les nombres impairs, vous commencez de 0, 2, 4, 6, 8, etc. Et 1 ne va jamais être énuméré. Si vous décidez d'énumérer les nombres dans l'ordre naturel, 0, 1, 2, 3, 4, ils vont tous être énumérés à un certain moment. Donc, quand vous mettez un ordre sur les entiers, il y a des ordres comme l'ordre naturel, où chaque élément n'a qu'un nombre fini d'éléments avant lui, et ça donne une propriété d'équité. Et puis, vous avez d'autres ordres, comme l'ordre lexicographique, d'abord sur la parité et ensuite sur l'ordre naturel, pour lesquels certains nombres, les nombres impairs, ont un nombre infini de nombres avant eux et donc ne sont jamais énumérés. Donc ici, comment est-ce que je fais pour parcourir l'arbre en largeur d'abord ? Bien, le début, c'est facile. Il suffit que je visite la racine. Donc je visite le 3 ici, et il me reste ces deux sous-arbres à visiter. Et ici, quels sont les deux prochains nœuds que je dois visiter? Le 1 et le 4. Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas que je m'acharne sur un des sous-arbres. Donc supposons que je visite le 1. Le 1 est visité, et maintenant il me reste 3 sous-arbres à visiter. Le sous-arbre gauche du sous-arbre gauche de la racine, le sous-arbre droit du sous-arbre gauche de la racine et le sous-arbre droit. Et quel est celui que je dois traiter en priorité? Le sous-arbre droit. Donc ça veut dire que ici, cet arbre-là et cet arbre-là, je dois les mettre dans cette structure d'attente après ce sous-arbre qui se trouve ici. Donc je dois d'abord traiter cet arbre, puis celui-là. Ici, revenons avant que je les mette à la fin. Quel est le dernier arbre arrivé? Quels sont les arbres les plus récents? Eh bien, c'est ces deux-là. Et quel est l'arbre le plus ancien à attendre? C'est celui-ci. Et donc, vous voyez que l'arbre que je dois traiter en premier, l'arbre dont que je dois parcourir en premier, c'est l'arbre qui attend depuis le plus longtemps dans cette structure. Et donc, ça veut dire ici que je dois traiter en premier ceux qui sont arrivés les premiers. Donc, premier arrivé, premier servi. Et dans ce cas-là, ça veut dire que je ne dois pas utiliser une pile, mais une file. Et bien donc, l'algorithme est exactement le même que celui qu'on a vu pour le parcours en profondeur d'abord, sauf que la pile est remplacée par une file. Au moment où j'ai un arbre que je veux parcourir, je le décompose en trois sous-arbres, sa racine, le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Je visite la racine et je mets le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit à la queue de la file d'attente et je m'occupe des autres arbres qui sont en attente. Vous voyez que la notion de file, qui est liée à la notion de largeur d'abord, est aussi liée à la notion d'équité. Et donc vous savez que dans les queues des cinémas à Paris, c'est le dernier arrivé qui est le premier servi, et que tous les touristes qui n'ont pas l'habitude d'aller au cinéma à Paris se plaignent du fait que les queues des cinémas à Paris manquent d'équité. Donc c'est parce qu'on gère les files d'attente comme des piles. Alors que dans tous les autres pays du monde, c'est les files, les gens se mettent à la fin et attendre. Donc il y a une notion, il y a un lien entre la notion de file, la notion de parcours en largeur d'abord et la notion d'équité. À l'inverse, il y a un lien entre la notion de profondeur d'abord, la notion de pile et l'absence d'équité. Une autre chose importante, c'est que le parcours en largeur d'abord est aussi le parcours en largeur d'abord est aussi un algorithme qui peut se programmer récursivement. Au lieu d'utiliser une boucle, je peux utiliser la récursivité, mais utiliser la récursivité ne me permet pas d'économiser la file. Même si je le parcours récursivement, je vais être contraint d'utiliser une file, parce que la récursivité me permet d'économiser une pile, mais ne me permet pas d'économiser une file. Donc ça, c'est un grand mystère. Quelle serait la construction d'un langage de programmation qui pourrait remplacer la boucle et une file? Et ça, personne ne sait répondre. On sait répondre quelle construction permet de remplacer la boucle plus une pile, ça s'appelle la récursivité, mais quelle construction permettrait de remplacer la boucle plus une file, personne ne sait. Voilà, donc, la conclusion de ce paragraphe, c'est que si vous voulez traiter vos mails de manière équitable, il faut les traiter sous forme d'une file d'attente, c'est-à-dire répondre d'abord au mail le plus ancien. Et si vous ne faites pas ça, si vous faites comme moi par exemple et que vous répondez d'abord au mail le plus récent, eh bien il y a des mails qui vont s'accumuler au fond de la pile et auxquels vous n'allez jamais répondre. Et donc il va y avoir un problème d'équité de la part de vos interlocuteurs. Alors on va reprendre cette notion d'équité mais sous une autre forme dans les files de priorité. Et donc, vous vous souvenez, l'exemple qu'on avait donné quand on avait parlé des listes, et on avait dit une file de priorité, c'est la structure dont on a besoin aux urgences d'un hôpital, où le principe du dernier arrivé, premier servi, ainsi que le principe du premier arrivé, premier servi, ne sont pas les meilleurs. Donc, on doit examiner rapidement chacun des patients, leur donner une priorité, et traiter les patients dans l'ordre de priorité. Et bien sûr, cet ordre sur les patients, il va changer dynamiquement. À chaque fois qu'un patient est soigné et quitte l'hôpital, il y a un patient de moins, mais également à chaque fois qu'un patient arrive, il faut être capable de l'insérer dans cette file d'attente. Et il faut faire tout ça en quelle complexité ? Donc, est-ce qu'on a envie de faire ça en n carré? Non plus. Est-ce qu'on a envie de le faire en n? Non plus, c'est trop coûteux. On aimerait le faire en temps constant, mais ce n'est pas possible. Donc, on va le faire en temps log. Et on avait vu qu'avec les listes, on n'arrivait pas à le faire en temps log, puisque la recherche était linéaire. Si on laissait les éléments dans la liste dans un ordre quelconque, et en revanche, si on ordonnait la liste, à ce moment-là, c'était l'insertion qui devenait linéaire. Si la liste est ordonnée, l'élément de priorité maximum, c'est la tête de la liste, donc on y a accès en temps constant. En revanche, pour insérer un élément dans une liste, eh bien, ça demande un nombre d'opérations qui est proportionnel au nombre d'éléments. Dans le pire des cas, c'est le nombre d'éléments. Et en moyenne, c'est la moitié du nombre d'éléments. Bien, l'idée, pour faire les trois opérations de recherche et de suppression de l'élément maximum et d'insertion d'un élément en temps logarithmique, c'est de remplacer la liste par un arbre. Et avec les outils qu'on a vus la semaine dernière, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour traiter des files d'attente en un temps logarithmique. Vous vous souvenez qu'avec les arbres de recherche, et on peut choisir comme relation d'ordre dans l'arbre de recherche la priorité, eh bien, on avait vu que la recherche, l'insertion et la suppression étaient logarithmiques. Mais étaient logarithmiques à un coût. Ce coût, c'est qu'il faut maintenir l'arbre équilibré. Et on avait vu un certain nombre d'exemples. En particulier, on avait parlé des arbres d'Adelson, Velsky et Landis, aussi appelés les arbres AVL, qui permettent de faire ça. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que si l'unique but qu'on a, c'est de gérer une liste, une file de priorité, il y a une solution beaucoup plus simple qu'un arbre de recherche, c'est ce qu'on appelle un arbre partiellement ordonné. Donc, quelle est la différence entre un arbre de recherche et un arbre partiellement ordonné? Eh bien, vous vous souvenez que dans un arbre de recherche, tous les nœuds qui se trouvent à gauche, dans le sous-arbre gauche d'un nœud quelconque, sont plus petits, ont une valeur plus petite que la valeur du nœud en question, mais que tous les nœuds qui se trouvent dans le sous-arbre droit d'un nœud sont plus grands que ce nœud-là. D'accord ? C'est ça qu'on avait appelé un arbre de recherche. Donc, à gauche, plus petit, à droite, plus grand. Un arbre partiellement ordonné, c'est un arbre dans lequel tous les enfants d'un nœud, qu'ils soient à gauche ou à droite, sont toujours plus petits. Donc, voici deux arbres de recherche. Vous voyez que ici, 24 est plus grand que tous les nœuds de l'arbre. 19 est plus grand que tous les nœuds de ces sous-arbres. 9 est plus grand que tous les nœuds de ces sous-arbres. Donc là, 9 est plus petit que 24. 1 est plus petit que 9. Et donc ça fait de ça un arbre partiellement ordonné et non un arbre de recherche. Voici un autre arbre partiellement ordonné. Et vous voyez que il représente le même ensemble, et donc le même ensemble peut être représenté par plusieurs arbres partiellement ordonnés. On avait déjà vu ça à propos des arbres de recherche, le même ensemble pouvait être représenté, le même dictionnaire pouvait être représenté par plusieurs arbres de recherche différents. En revanche, ici, vous voyez que je n'ai pas de choix pour la racine. La racine est forcément l'élément de priorité maximale. Dans tous les arbres ordonnés du même ensemble, la racine est toujours l'élément maximal. Donc ça vous montre que trouver la racine, trouver l'élément de priorité maximale dans un arbre ordonné quelconque n'est pas difficile, il suffit de regarder la racine. Donc comment est-ce qu'on recherche le max? C'est la racine. Comment est-ce qu'on supprime le max? Et là encore une fois, on ne veut pas supprimer un nœud quelconque, on veut juste... On traite le patient en premier et c'est lui qui disparaît, ou qui quitte l'hôpital, je veux dire. On ne va pas essayer de supprimer quelqu'un qui est dans la file d'attente, autre que le maximum. Donc comment est-ce qu'on fait pour supprimer un élément qui est maximal, c'est-à-dire pour supprimer la racine? Eh bien, on va promouvoir, une fois que le 24 aura disparu, on va promouvoir l'un des sous-chefs, l'un des nœuds qui se trouve... qui sont des enfants de la racine, donc les nœuds du niveau 1 ici, on va en promouvoir l'un d'eux racine. Et une fois qu'on aura remplacé la racine par ce nœud-là, eh bien on se trouve dans ce sous-arbre, dans le même problème, on a le même problème, le chef a disparu, il a été promu, et donc il faut promouvoir le meilleur de ces sous-chefs, ici le 12. Donc ici, vous voyez que si je supprime le 24, le 19 va venir prendre la place du 24, le 12 va venir prendre la place du 19, et le 5 va venir prendre la place du 12. D'accord ? Donc c'est un algorithme qui est extrêmement important de comprendre, parce que c'est comme ça que se passent les promotions dans les structures hiérarchiques. Quand le chef disparaît, c'est le meilleur des sous-chefs qui devient chef, et c'est tous les autres de la branche du sous-chef qui remontent en un temps. Et attention, il n'y en a qu'un nombre logarithmique qui profite de l'opération. Vous avez remarqué ici que le 1 s'est très bien débrouillé, puisque bien qu'il n'ait pas une très très grande priorité comparé aux autres, par exemple au 5 là, qui est en train de croupir ici au 4e sous-sol, il a déjà réussi à être vice-président de l'entreprise. Et comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, si je vous avais raconté toute l'histoire de cet arbre, vous sauriez qu'avant, ici, il y avait un 23, un 22 et un 21. Et quand le 1 est entré dans l'arbre, il avait le choix d'entrer ou bien ici, dans ce service, où bon, il y a des jambons, mais il y en a aussi un peu des bras cassés, ou bien de rentrer dans celui-là, où il n'y avait que des gens très très forts. Rappelez-vous, il y avait un 23, un 24, un 22 et un 21. Et il a fait le bon choix. Il a fait le choix de rentrer dans le service où il y avait les gens les meilleurs. Et pourquoi il a fait le bon choix? Parce que bien sûr, c'était un 25, il y avait le 24 qui était en bas, puis il y avait un 25, un 26. Tous ces gens ont été promus, ils ont vite été traités, ils ont disparu, et puis ils ont été promus, disparus, et le 1 a grimpé extrêmement vite dans la hiérarchie. Parce qu'en fait, ce qui importe pour que le 1 monte dans la hiérarchie, c'est uniquement de savoir que quand le chef disparaît, on va aller chercher un nouveau sous-chef dans son sous-arbre à lui, qu'il est dans les logins qui sont au-dessus du chef qui va être promu en dessous. Donc c'est ça qui est important, et c'est un conseil pour la gestion de votre carrière qui est extrêmement précieux. Essayez toujours de travailler dans les services où il y a les gens les plus compétents, parce que c'est eux qui vont être promus, et c'est dans ce service que vous allez pouvoir grimper. Si ici vous êtes derrière ce 12 ou derrière ce 9, il y a extrêmement peu de chances qu'ils soient appelés à de plus hautes fonctions et donc que vous-même vous soyez promu. Alors une fois j'étais à la FNAC, et vous savez à la FNAC il y a tout un tas de livres sur comment réussir dans la vie, comment réussir son couple, comment réussir sa famille, comment réussir sa retraite, etc. Et alors il y en avait un qui était comment réussir sa carrière. Ah, 101 conseils pour bien réussir sa carrière. Et donc je me suis dit tiens je vais lire un conseil. Je n'avais pas acheté le bouquin quand même, mais donc j'ai ouvert le livre au hasard et le conseil qu'il donnait, c'était pas tout à fait celui que je vous donne, c'était dites toujours du bien de votre chef à son chef, parce que c'est seulement comme ça qu'il va pouvoir être promu, que vous allez pouvoir prendre sa place. Si vous dites du mal, et retenez ça, si vous dites du mal de votre chef à son chef, il ne va pas du tout le rétrograder pour vous mettre chef à sa place, contrairement à ce que vous pourriez croire, mais au contraire, il va le laisser à sa place et vous allez rester sous-chef de votre chef pendant toute votre carrière. Donc, rentrez toujours dans les services où il y a des 24, des 25, des 26, c'est eux qui vont devenir président de l'entreprise et vous allez devenir président, vice-président. Bien sûr, si vous êtes un, vous n'avez pas d'espoir d'accéder à la position suprême avant tout le monde, mais toutes les positions de vice-président vous sont ouvertes. Donc, c'est déjà pas mal. Comme les arbres de recherche, les arbres partiellement ordonnés doivent être équilibrés, puisque vous voyez que, par exemple, l'opération qui consiste à supprimer un élément va demander de promouvoir tous les éléments d'une branche de l'arbre. Et donc, pour que cette opération soit logarithmique, il faut que la hauteur de l'arbre soit borné par une certaine constante fois le log du nombre d'éléments. Et donc ça, on avait vu que ça s'appelait un ensemble d'arbres équilibrés. Et ici, contrairement à ce que je vous avais dit pour les arbres de recherche, il est extrêmement facile de maintenir l'arbre toujours de hauteur minimale. Vous voyez ici que la hauteur minimale de cet arbre, c'est 2, puisqu'il y a 7 nœuds, 6, et que log de 6 en partie entière, c'est 2. La partie entière du log binaire de 6, c'est 2. Autrement dit, 6 est compris entre 4 et 8, et entre 4 et 7. Et donc, on peut maintenir toujours un arbre de hauteur 2 quand on a 6 nœuds. Et on peut même faire mieux, on peut avoir un arbre qui est tassé, ça veut dire où, sur le dernier niveau, les nœuds sont le plus à gauche possible. Vous voyez que dans un arbre de hauteur minimum, la racine, il y a toujours une racine. Au niveau suivant, il y a toujours le maximum du nombre de nœuds, 1, 2, 4, 8, etc. Et c'est juste au dernier étage, à l'étage où il y a les feuilles, qu'il peut y avoir plus ou moins, que les nœuds peuvent être à différents endroits. Donc voici deux arbres de hauteur minimale et de 6 nœuds, et vous voyez que ici, ce nœud-là, il a disparu, et ici, il est là à la place. Et donc, quel est celui de ces deux arbres qui est tassé, c'est-à-dire où les nœuds sont le plus à gauche possible? Eh bien, c'est celui-ci, puisque celui-là, je pourrais mettre ce nœud là, et celui-là là, ou, enfin, ces deux nœuds, je pourrais en mettre au moins un ici. Donc, on va voir des algorithmes qui permettent d'accéder à l'élément maximal, de supprimer un nœud et d'ajouter un nœud, tout en maintenant ces deux propriétés qui se résument dans le fait que l'arbre est tassé. Il faut que l'arbre ait la hauteur minimale et il faut que les nœuds soient le plus à gauche possible au dernier niveau. Alors pour ça, on va voir qu'on peut numéroter les nœuds d'un arbre binaire et ça va même nous donner une définition de ce qu'est un arbre tassé. Ce nœud ici qui est en rouge, si je veux le repérer par rapport à la racine, eh bien, c'est l'enfant gauche de l'enfant droit de la racine. Et donc, quand j'écris l'expression en Java qui me permet de désigner cette cellule, rappelez-vous, les nœuds de l'arbre, ce sont des cellules, eh bien, j'écris a.droite.gauche. A.droite.gauche. Comme je suis en train de parler du nœud de l'arbre A, je peux supprimer le A, et appeler ce nœud le nœud droite-gauche, droite-gauche. C'est une espèce de jeu de piste, on vous indique comment trouver le nœud, vous partez de la racine, il faut aller à droite, puis il faut aller à gauche. Et donc vous voyez que chacun des nœuds peut être repéré ici par une suite binaire qu'on appelle l'occurrence de ce nœud. Et plutôt que d'utiliser les mots droite et gauche, comme j'ai deux éléments, je peux les remplacer par 1 et 0. D'accord, ça fait une manière plus courte d'écrire l'occurrence droite-gauche 1-0. Cette suite 1-0, je peux également la voir comme la suite des chiffres d'un nombre écrit en base 2. Alors, est-ce que ça, c'est tout à fait une bonne idée ou est-ce que ça va m'introduire des confusions? Est-ce qu'il est possible que j'ai deux nœuds de l'arbre qui se retrouve avec le même numéro, si je numérote comme ça? Eh bien oui, comme vous le savez, les zéros qui se trouvent à gauche d'un nombre ne changent pas ce nombre, sont non significatifs. Donc si vous avez 1, 1, 1, ça fait 7, et 0, 1, 1, 1, ça fait 7 également. Donc ici vous avez deux nœuds, qui seraient le nœud gauche, droite, 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 et le nœud droite, 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 qui vont avoir le même numéro. Et donc ça, ça ne va pas. Donc pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter en tête du nombre un 1, de manière à ce que, donc je rajoute ici un 1 qui est en rouge, de manière à ce que deux nœuds soient toujours associés à des nombres différents. Donc du coup, ce nœud-là, il s'appelle 6. Et donc je peux mettre son numéro ici. Et voilà ce qui se passe quand je numérote tous les nœuds de l'arbre de cette manière. Eh bien, la racine a le numéro 1. Et quand j'ai un nœud qui a le numéro n, ses enfants ont le numéro 2n et 2n plus 1. D'accord ? Et ce qui est important ici, c'est que n est toujours différent de 0. Donc 2n et 2n plus 1 sont toujours différents de n. Donc les nœuds 1, 2, 3, 4, 5, 6, et un arbre tassé peut se définir comme un arbre dont les nœuds forment un intervalle de la forme 1n. Regardez cet arbre, les nœuds s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est tassé. Les nœuds de cet arbre s'appellent 1, 2, 3, 4, 6, 7, il manque le 5, il manque le nœud 5, et donc l'intervalle n'est pas de la forme 1n, l'arbre n'est pas tassé. Alors qu'est-ce qu'on appelle un tas ? Un tas, c'est un arbre qui est tassé et qui en plus est un arbre partiellement ordonné. Donc quand j'ai parlé d'arbre tassé, je ne faisais que de la géométrie. Vous voyez que les nœuds n'avaient pas de contenu, c'était uniquement la position relative des nœuds dans l'arbre qui m'intéressait, donc ça c'est ce qu'on appelle la géométrie de l'arbre. Maintenant, quand je rajoute du contenu, un contenu à chacun des nœuds, eh bien il y a deux propriétés qui peuvent être proposées. L'une, c'est le fait que l'arbre est tassé, et ça c'est une propriété qui est purement géométrique, et l'autre, le fait que c'est un arbre partiellement ordonné, qui est une propriété qui concerne les contenus des nœuds. Donc voici un tas, c'est un arbre tassé et partiellement ordonné. Et donc maintenant, on va voir qu'on peut programmer sur les tas les opérations d'insertion, de recherche et de suppression en un temps logarithmique, puisque ce temps sera borné par la hauteur de l'arbre et que dans un tas, comme l'arbre est de hauteur minimale, eh bien, la hauteur de l'arbre est toujours le log en base 2, la partie entière du log en base 2 du nombre d'éléments. Bien, la recherche, il n'y a rien à dire. La recherche, on la faisait déjà en temps constant sur n'importe quel arbre de recherche, qu'il soit ordonné, qu'il soit tassé, qu'il soit de hauteur minimale ou même de hauteur maximale. La recherche est toujours en temps constant et une constante croît toujours moins vite que le log. Pas beaucoup moins vite, hein, le log ne croît pas beaucoup plus vite qu'une constante, mais un tout petit peu quand même. Et donc, la recherche, il n'y a rien à changer. Comment faire l'insertion dans un tas en un temps logarithmique, en un temps qui est proportionnel à la hauteur de l'arbre? Eh bien, d'abord, réfléchissons en termes géométriques. Où le nouveau nœud va-t-il se trouver d'un point de vue purement géométrique? Ben, il y a une seule solution. Si on a déjà des nœuds 1, 2, 3, 4, 5, 6, la seule possibilité, c'est que le nouveau nœud soit en position 7. Et de manière générale, si on a des nœuds 1, 2, 3, n, la seule possibilité, c'est que le nouveau nœud soit en position n plus 1. Donc, en termes géométriques, j'ai rien à décider, le nœud est forcément là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'ai l'arbre de tout à l'heure, je rajoute un nœud ici, et manque de chance, le numéro, le contenu de ce nœud, n'est pas plus petit que le contenu de son parent. Donc ici, j'ai rajouté un nœud 97, 97 est plus grand que 9, donc en rajoutant ce nœud, je n'ai plus un arbre partiellement ordonné. Et donc c'est le moment de permuter cet arbre avec son parent, de faire descendre le parent ici, de remonter le 97 là, puis ensuite ça va créer un conflit, le conflit entre 97 et 9 sera résolu, mais ça va créer un conflit entre 97 et 24, donc il va falloir permuter le 97 et 24, et donc je vais me retrouver avec le 97, le 24 et le 9. Et j'aurai retransformé l'arbre en un arbre partiellement ordonné. Quelle est la complexité de cette opération? Rajouter le nœud constant, permuter le nœud avec son parent jusqu'à ce qu'il soit plus petit, jusqu'à ce qu'on arrive à la racine ou jusqu'à ce qu'il soit plus petit que son parent, eh bien ça prend un temps qui est proportionnel à la hauteur de l'arbre et donc qui est borné par le log du nombre de nœuds. La suppression, c'est un petit peu pareil. On commence par la question géométrique. On a un arbre qui a cette forme. Le seul nœud que je peux supprimer, c'est celui-ci. Et de manière générale, si j'ai des nœuds qui sont numérotés de 1 à n, le seul nœud que je peux supprimer, de manière à garder un arbre tassé, c'est le nœud n. Donc, si je le supprime, je risque ici de perdre le 9 qui se trouve là. Alors que ce que je voulais, c'était supprimer le 97, qui était l'élément de priorité maximale. Je vous rappelle que l'opération consiste à traiter le patient de priorité maximale, et une fois qu'il est traité, hop, il disparaît de la salle des urgences. Donc, c'est le 97 qui doit partir, et d'un point de vue géométrique, c'est le 9, c'est le nœud qui contenait le 9 que je vais supprimer. Ben donc il y a un moyen à relativement court terme de résoudre ce conflit, c'est de mettre le 9 ici dans le nœud qui a été libéré par le 97, qui a été supprimé. Mais encore une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus un arbre qui est un arbre partiellement ordonné, puisque 9 est plus petit que 24, et il est plus petit que 19, et donc je dois ici permuter le 9 avec l'un de ses enfants, de manière à le faire progressivement descendre dans l'arbre. La seule chose qui est plus compliquée quand je fais descendre un élément que quand j'en faisais monter un, c'est qu'ici, est-ce que je dois permuter le 9 avec le 19 ou avec le 24? Avec le 24. Parce que si je fais monter le 19, eh bien, je vais créer un conflit entre le 19 et le 24. Et le conflit des sous-chefs, c'est jamais une bonne chose. Donc, je vais faire monter le 24, descendre le 9 à la place du 24, et là, je vais m'arrêter là, puisque le 9 est plus grand que 5, et il n'y a personne ici. Donc, l'arbre sera partiellement ordonné. Mais dans le pire des cas, je vais avoir un nombre de permutations à faire qui est proportionnel à la hauteur de l'arbre, c'est-à-dire qui est logarithmique en le nombre d'éléments de l'arbre. Donc, pour résumer, l'état, on peut faire la recherche en temps constant, l'insertion et la suppression en temps logarithmique, et donc c'est beaucoup mieux pour gérer ce genre de, problème de priorité que les listes. Comment est-ce qu'on peut écrire un programme en Java qui cherche l'élément maximum dans un tas, qui les supprime et qui insère dans un tas? Eh bien, il y a deux solutions. Une solution, c'est d'utiliser un type d'arbre, c'est-à-dire un type dynamique avec deux champs récursifs et puis un champ non récursif, donc de représenter ça comme un arbre en Java. Mais il y a une autre solution qui vient du fait que les numéros des nœuds sont contigus. Ici, vous vous souvenez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, il y a une possibilité de représenter cet arbre, non pas par un arbre de Java, mais par un tableau. Donc, voici les numéros des cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est les numéros des nœuds dans l'arbre. En tant que case d'un tableau, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, il y a une grande opportunité pour faire des erreurs d'arithmétique, puisque dans l'arbre, les nœuds commencent à 1, et dans le tableau, les indices commencent à 0. Bon, mais c'est des problèmes d'arithmétique qu'on arrive à résoudre. Et vous représentez l'arbre comme un tableau. Ici, 24, 19, 9, c'est les contenus des nœuds. Quand vous voyez ce tableau, comment vérifier que c'est un... qu'il représente un arbre partiellement ordonné? Eh bien, vous partez de la racine et vous cherchez les enfants de la racine. Et les enfants de la racine, c'est facile. Il faut faire 2n et 2n plus 1. Et vous vérifiez que pour chacun des nœuds, 2n et 2n plus 1 sont plus petits. Par exemple, si vous prenez ce nœud ici, 2, c'est quoi 2n et 2n plus 1? Eh bien, c'est 4 et c'est 5. Donc, vous vérifiez que 4 et 5 sont plus petits. Donc, quand vous voyez ça, ça ne saute pas aux yeux que ça représente un tas. Parce qu'une fois que vous avez représenté votre arbre dans un tableau, le fait que 19 ici soit le parent de 1 ou que 19 soit le parent de 12 n'est pas complètement immédiat. Mais bon, ça demande juste un peu d'arithmétique. Ça demande de multiplier par 2 le numéro qui se trouve là et de prendre l'élément suivant. Donc, quand vous avez représenté les tas dans des tableaux, l'insertion se fait de manière extrêmement rapide, la suppression également, mais remarquez que c'est d'ailleurs un exercice que je propose toujours qu'on mette au concours, à l'entrée à l'école. Vous donnez ce programme à un élève, à un topin qui débarque là pour passer le concours. Le temps qu'il comprenne que ici, J-1 sur 2, c'est l'indice du parent, que J-1 sur 2, c'est l'indice d'un parent, et que le tableau représente un arbre, eh bien, vous êtes sûr que s'il trouve ça, vous pouvez le recruter comme élève à l'école. Parce que si vous n'avez pas l'intuition de l'intuition géométrique de l'arbre et que vous regardez uniquement le programme avec ces manipulations d'indices qui consistent à faire 2n plus 1, 2n plus 2 et j-1 sur 2, bien vous ne pouvez absolument pas comprendre ce qui se passe. En revanche, sinon, c'est relativement facile. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, tant que vous avez l'indice d'un... Tant que vous avez ici le parent, le contenu du parent qui est inférieur au contenu de l'enfant, eh bien, vous permutez, vous vous souvenez, là, c'est le principe des trois verres, vous faites z égale t de j égale titre de j moins 1 sur 2, t de j moins 1 sur 2 égale z, donc vous permutez j moins 1 sur 2 et j, et puis ensuite, vous faites la même opération sur le parent. Donc là, vous êtes en train de faire remonter un élément que vous avez inséré, vous le permutez avec son parent, et ensuite vous placez sur le parent et vous essayez de permuter le parent avec le grand-parent, jusqu'à, ou bien que avoir trouvé un enfant qui est plus grand que le parent, plus petit que le parent, auquel cas vous pouvez vous arrêter, ou bien vous êtes arrivé à la racine et vous pouvez vous arrêter également. Voilà, pour la semaine prochaine, je vous propose de faire les exercices 9.3 et 9.10, et on terminera la semaine prochaine en parlant du tri.
Ok, c'est bon? C'est bon? Ok, donc bonjour à tous. Merci Gilles de me donner l'occasion de parler devant vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Redon, donc je suis responsable de l'équipe NanoD à l'INRIA Grenoble. Et on s'occupe de faire des algorithmes pour la modélisation et la simulation de nanosystèmes. Donc je vais vous parler de conception assistée par ordinateur, de macrosystèmes et de nanosystèmes. Mais en fait, c'est qu'un prétexte machiavélique pour vous parler des arbres. D'accord. Donc macrosystèmes et nanosystèmes, ça sont deux termes un peu pompeux pour dire système manufacturé, d'une part à notre échelle ou à l'échelle nanoscopique. D'accord. Une des applications, un des grands thèmes de recherche en informatique, c'est la modélisation et la simulation numérique. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un énorme besoin dans plein d'applications. Donc je vais commencer par vous parler des macrosystèmes. Quelques besoins de simulation de macrosystèmes sont par exemple la conception de voitures. D'accord? Voitures, d'avions, etc. Vous savez que maintenant, tout ce qui est voiture, avion, macrosystèmes manufacturés sont conçus sur ordinateur. D'accord? On dessine une Renault sur ordinateur et ensuite on fait une simulation sur ordinateur, un crash test virtuel, un calcul d'aérodynamisme pour voir si la voiture va avoir un bon coefficient de pénétration dans l'air, etc. D'accord? Donc il faut être capable de simuler les processus physiques macroscopiques dans ce type d'application. Un deuxième type d'application, c'est la robotique. D'accord? On va essayer de détecter des contacts entre des robots et des environnements. Par exemple, pour pouvoir faire de la planification de mouvement. On essaye d'avoir un environnement complexe et on essaye de prédire et de déterminer de façon autonome un mouvement pour un robot. Autrement dit, on a une position initiale et une position finale et on essaye de trouver avec un algorithme un chemin qui va de la position initiale à la position finale le plus rapidement possible. D'accord ? Et un chemin exact, rigoureux. Autre application de la simulation physique, des algorithmes de détection de collision que vous êtes en train de voir en ce moment dans les TD, c'est par exemple tout ce qui est jeux vidéo ou réalité virtuelle. D'accord ? Donc là, vous avez, en fait, ça, c'est un système qui a été fait pour l'armée américaine, où un soldat qui veut s'entraîner à un système de capture du mouvement son avatar virtuel se promène dans un environnement virtuel pour essayer de simuler une tâche. Et le but de l'algorithme, là, c'est de détecter les collisions entre l'avatar et l'environnement virtuel. Une autre application, ça peut être, par exemple, dans les jeux vidéo. Vous avez peut-être remarqué que maintenant, de plus en plus, dans les jeux vidéo, vous avez de la physique intégrée. D'accord ? Si vous avez entendu parler de physics proposée par NVIDIA, qui a été rachetée par NVIDIA, etc., vous avez des algorithmes pour simuler le mouvement physique des objets, pouvoir déchirer des drapeaux, des tissus, pouvoir détruire des piles d'objets. Et une autre application pour revenir, pour revenir à la réalité virtuelle, essayer de faire se toucher des lapins. Je vous montre. Alors, pourquoi ? Pourquoi les lapins ? Alors, en fait, pour la petite histoire, le lapin, c'est le lapin de Stanford, qui est un modèle très utilisé en infographie, parce que c'est en fait une statue en plâtre qui a été scannée par un laser. Et donc, tous les gens qui travaillent sur la reconstruction de surfaces triangulées à partir de nuages de points obtenus par laser travaillent sur les données fournies par Stanford, gratuitement. Donc, vous pouvez aller sur le site de Stanford et récupérer un nuage de points et proposer des nouveaux algorithmes pour la triangulation. D'accord ? Dans tous ces exemples-là, vous devez essentiellement faire deux choses. Si vous voulez simuler le mouvement de ces objets-là, rigides, articulés, formables, vous devez faire essentiellement deux choses. D'une part, détecter des collisions entre ces objets. D'accord ? Vous voulez pouvoir interagir de façon réaliste avec les objets. Et une fois, et c'est le deuxième problème, une fois que vous avez détecté des contacts entre les objets, vous devez calculer le mouvement contraint. D'accord ? Vous devez tirer, vous devez prendre en compte ces contraintes de contact, de glissement, de frottement, etc., pour calculer le mouvement contraint de l'objet. D'accord ? Ce que vous êtes en train de faire dans le TD, en partie, c'est une méthode de détection de collision. D'accord ? Alors la méthode que vous êtes en train de programmer, c'est ce qu'on appelle une méthode de détection de collision discrète. C'est-à-dire qu'on va détecter des interpénétrations entre des instants discrets dans le temps. D'accord ? Donc on va déterminer une position de l'objet à un instant donné, on va voir s'il y a une interpénétration entre moi-même et un lapin. Ensuite, je vais, s'il n'y a pas de pénétration, pardon, d'interpénétration, c'est filmé là. Petit blanc. S'il n'y a pas de collision, on avance à l'instant suivant et on détermine s'il y a une collision à l'instant suivant. D'accord ? Donc c'est une détection de collision discrète puisqu'on regarde à des instants discrets seulement. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est de ce qu'on appelle la détection de collision continue. Cette fois, on essaye de savoir exactement quand les objets touchent. Donc par exemple, si on reprend l'avatar qui se promène dans un environnement virtuel, le but du jeu ici, c'est à partir de deux positions successives, la position initiale et la position finale, d'obtenir une interpolation, d'accord ? De détecter des interpénétrations entre ce mouvement interpolé et l'environnement virtuel, et de ne garder qu'une partie du mouvement, la partie du mouvement qui est valide. D'accord ? Le problème de ça, c'est qu'il faut déjà commencer par proposer un mouvement pour les objets. D'accord ? Et en fait, c'est non trivial parce que la plupart du temps, on n'a pas les mouvements des objets virtuels. Et ça pour essentiellement deux raisons. La première raison, c'est que vous pouvez être en train de jouer à un jeu vidéo, par exemple avec une souris, un joystick, que les interfaces que vous utilisez n'envoient des signaux à la qu'à des instants discrets. D'accord ? Donc, si vous êtes très rapide, vous pouvez... Mais de toute façon, l'algorithme n'aura des informations de position de votre main qu'à certains instants. D'accord ? Et donc, on n'a pas le... La deuxième raison pour laquelle vous n'avez pas les mouvements, c'est que si vous faites de la simulation dynamique, vous discrétisez les équations différentielles pour les résoudre. D'accord ? On ne peut pas déterminer de manière analytique les solutions des équations différentielles et donc déterminer de façon analytique les mouvements des objets. Donc on est obligé de discrétiser la solution et de faire par des algorithmes de type Euler, Runge-Kutta, etc., dont vous avez peut-être entendu parler en simulation numérique, des positions et des vitesses intermédiaires. D'accord ? Du coup, ce qu'on va faire si on veut détecter des collisions de façon continue, c'est utiliser des interpolations arbitraires. D'accord ? On va supposer que certaines positions sont connues et sont fournies soit par l'interface utilisateur, soit par un algorithme qui résout les équations différentielles, et on va remplacer ces mouvements intermédiaires qui ne sont pas connus par des mouvements arbitraires qui vont être suffisamment généraux pour pouvoir interpoler deux positions successives quelconques et suffisamment simples pour pouvoir détecter rapidement des collisions. Par exemple, un mouvement qu'on peut utiliser, c'est un vissage. Un vissage, vous savez peut-être que c'est composé d'une translation et d'une rotation selon le même axe. D'accord ? C'est le mouvement le plus simple. Et Schall a démontré que, quelles que soient deux positions rigides quelconques, il existe toujours un vissage qui permet de passer d'une position à une autre. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir envie d'utiliser ? Parce que la représentation matricielle du vissage contient beaucoup de zéros, et donc les calculs vont être rapides. Une fois qu'on a détecté, qu'on a proposé un mouvement arbitraire, ce qu'on va vouloir faire, c'est détecter des collisions entre les objets. D'accord ? Donc on va supposer que les objets sont composés de triangles, et à ce moment-là, ça devient très simple. Donc on passe de la détection de collisions discrètes, où on devrait détecter des interpénétrations entre triangles, à la détection de collisions continues. Et dans ce cas-là, il ne peut y avoir que trois types de contacts. Le premier type de contact, c'est un contact entre deux arêtes de la triangulation. D'accord ? Les objets avancent et deux arêtes rentrent en contact à un instant donné. D'accord ? Les deux types suivants, qui sont en fait symétriques, sont un contact entre un point d'un objet et un triangle, une face du deuxième objet, ou inversement. D'accord ? Et on peut démontrer que ce sont les deux possibles, ou les trois seuls cas possibles, en détection de collision continue. Et en fait, ces cas-là, donc ces deux cas-là, puisque deux des trois sont symétriques, sont très faciles à écrire géométriquement, d'accord ? C'est du niveau terminal. Par exemple, s'il y a une point et un triangle, on va d'abord détecter si le point appartient au plan support de la face du triangle, d'accord ? Et ensuite, si on trouve un instant de collision, on va essayer de vérifier si le point de contact appartient au triangle. D'accord ? Donc essentiellement, on a des points qui bougent au cours du temps, donc on a une équation qui est simplement essayer de trouver la racine de la fonction qui décrit ce test élémentaire géométrique, d'accord ? Pour trouver une racine de cette fonction, on peut faire très simplement une méthode qui est assez proche de la méthode des volumes englobants que vous êtes en train de voir dans les TD. Ce qu'on va faire, c'est déterminer deux bornes, un encadrement de cette fonction, grâce à l'arithmétique d'intervalle. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas vraiment détailler l'arithmétique d'intervalle, mais en fait, c'est très très simple. L'arithmétique d'intervalle, c'est simplement remplacer les calculs sur des nombres réels par des calculs sur des intervalles. D'accord ? Donc, vous allez par exemple pouvoir ajouter l'intervalle AB et l'intervalle CD. Ça va devenir l'intervalle A plus C, B plus D. D'accord ? Donc, par calcul sur les intervalles, on peut très facilement obtenir des bornes sur une fonction. D'accord ? Et donc, on a un algorithme récursif qui, par dichotomie, va localiser les premières racines. Donc, comment ça va marcher ? Si, par exemple, on a deux bornes de sens contraire, alors il se peut qu'il y ait une racine de cette fonction sur cet intervalle de temps, auquel cas on va subdiviser l'intervalle de temps et récursivement calculer des bornes sur ces intervalles, sur ces sous-intervalles, d'accord ? Sur cet intervalle de temps-là, les deux bornes sont de même signe, donc on est sûr qu'il n'y a pas de racine dans cet intervalle, mais il y a peut-être une racine dans l'intervalle de temps 0, 1,5. Donc récursivement, jusqu'à une certaine taille d'intervalle de temps, on va subdiviser pour localiser la première racine, d'accord ? Trouver le premier instant de contact, d'accord ? Donc ça, c'est très très simple. On sait comme ça comment détecter des collisions entre des triangles, des arêtes, des points et des faces, d'accord ? Mais le problème, c'est ce que vous êtes en train de faire dans l'énoncé, dans le TD, c'est que potentiellement, ceci conduirait à une complexité quadratique, d'accord, pour l'algorithme de détection de collision. Si jamais vous avez n triangles dans le premier objet et m triangles dans le deuxième objet, la complexité est nm, d'accord, si vous n'utilisez pas de méthode pour accélérer les calculs. Dans le TD, c'est d'utiliser des arbres de volume englobant, d'accord. Bon, vous avez tous compris le principe. Ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de détecter des collisions entre des objets complexes, comme des carrés, on va les englober dans des sphères, et Et on va dire que si les sphères ne se recouvrent pas, alors on est sûr que les carrés ne se recouvrent pas eux-mêmes. Si par contre les sphères se recouvrent, alors on va utiliser deux sphères filles qui recouvrent elles aussi, mais seulement une moitié chacune de l'objet. D'accord ? Et donc cette fois, je vais tester deux paires, S1A, S1B, pardon, quatre paires, S1A, S1B, S1A, S2B, S2A, S1B, S2A, S2B. D'accord ? Et récursivement, en utilisant ces hiérarchies de volume englobant, on va pouvoir localiser l'endroit où les triangles auront une chance de rentrer en collision. D'accord ? Donc, ce qu'on fait dans le TD, c'est utiliser une hiérarchie de sphères englobantes, mais on peut aussi utiliser une hiérarchie de boîtes englobantes. Le principe est à peu près le même. Le test entre deux boîtes est juste un tout petit peu plus compliqué. Donc, ça va marcher comme ça. Essentiellement, donc ça c'est Stéphane Gottschalk qui a montré qu'on peut utiliser la méthode de l'axe séparateur. Donc ça marche comme ça, c'est très très simple. Imaginez que les deux boîtes soient décrites par leur centre, leurs axes et leurs dimensions suivant leurs axes. Vous prenez un axe et vous projetez les boîtes suivant cet axe. D'accord ? Si le rayon projeté de la première boîte plus le rayon projeté de la deuxième boîte est plus petit que la distance projetée entre les centres, alors vous savez qu'il ne peut pas y avoir de recouvrement entre les deux boîtes. Vous avez trouvé une direction selon laquelle les deux boîtes sont séparées. D'accord ? Ce qu'a montré Stéphane Gottschalk, c'est qu'il suffit de faire ce test sur 15 axes. Les 3 axes... non, c'est les 15 axes naturels. Les 3 axes de la boîte 1, les 3 axes de la boîte 2 et les 3 x 3 axes produits vectoriels des axes des boîtes. D'accord ? Alors pourquoi en fait, imaginez que vous ayez ces deux boîtes-là. En fait, si je teste un axe ici, produit vectoriel d'un axe ici, en fait ça va correspondre à une séparation suivant les deux arêtes. D'accord ? Donc on peut montrer ça de façon rigoureuse avec des cartes de map, enfin peu importe. C'est un test qui est très très rapide et qui prend environ 200 opérations, addition, multiplication, et donc qui est très très rapide dans les jeux vidéo, les simulateurs. Le problème, c'est qu'on essaye de faire ce test-là de façon continue, d'accord ? Donc encore une fois, on va utiliser l'arithmétique d'intervalle pour transformer ce test qui est à la base discret en un test continu. Pour faire ça, on va par exemple obtenir une borne, donc pour un axe A donné, on va obtenir une borne sur le membre de gauche, une borne sur le membre de droit, d'accord ? Par l'arithmétique d'intervalle. Et on va montrer que, enfin c'est évident, on va en déduire que les boîtes sont séparées si la borne inférieure de cet intervalle-là est supérieure à la borne supérieure de cet intervalle-là, d'accord ? Ça voudra dire que les boîtes sont séparées par un axe tout au cours d'un intervalle de temps. D'accord ? Donc c'est juste une version un peu plus compliquée qu'on pourrait vous demander de coder si jamais vous terminez le TD. Alors, on peut... Donc je vous l'ai dit, c'est une méthode très très rapide. Donc on peut s'en servir pour aider par exemple à faire du prototypage virtuel. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un exemple de collaboration qu'on avait eu avec Renault. Et là, ce que vous voyez ici, c'est la portière d'une Scénic, en fait. C'est la portière d'une Scénic. Et dans ce scénario-là, on essaye de savoir si le réparateur, le mécanicien, sera capable d'enlever, d'extraire le moteur du lève-vitre. D'accord ? Donc, on essaye de répondre à ce type de question-là avant même de construire la machine. Donc on conçoit un test à partir des modèles virtuels. Donc ce que je fais par exemple ici, là vous avez le moteur du lève-vitre, d'accord ? Et on peut le manipuler, vous voyez apparaître les points de contact, les sphères jaunes, d'accord ? Et on peut le manipuler, vous voyez que on glisse sur les points de contact. Hop. Alors je vais essayer de faire sans tourner la tête. Voilà. J'essaye d'extraire le moteur pour savoir s'il existe un chemin. Hop, voilà. Donc là, j'ai réussi. Là, j'ai réussi à extraire le moteur de lève-vitre en utilisant une méthode de détection de collision continue, donc j'ai prouvé qu'il existe bien un chemin pour extraire le moteur du lève-vitre. D'accord ? La méthode avant le prototypage virtuel, c'était de dessiner les plans, de faire un test, de construire une maquette en polystyrène en bois, de faire les tests sur les maquettes en bois, et si jamais il y avait des problèmes, de revenir au plan. D'accord ? Et donc ça réduit beaucoup le temps de calcul, le temps de développement, si on fait des tests virtuels. Voilà. Donc ça, c'est en gros un très bref aperçu des méthodes de conception assistée par ordinateur de macrosystèmes. Et en fait, vous avez sans doute entendu parler des nanosystèmes. Et vous savez que les nanosciences, nanotechnologies sont en pleine explosion. Et qu'on peut généralement classifier les nanosciences en deux catégories. La nanoscience descendante et la nanoscience ascendante. D'accord ? Ce qu'on appelle la nanoscience c'est l'approche qui consiste à dire qu'on va essayer de miniaturiser de plus en plus les objets. D'accord ? C'est l'approche suivie par Intel. On essaye de faire des transistors de plus en plus petits pour qu'ils soient de plus en plus rapides. D'accord ? Les nanosciences ascendantes sont celles qui consistent à essayer de construire des nanosystèmes, des nano-objets, à partir d'atomes. D'accord ? D'essayer de faire des Lego à partir des atomes. Donc vous avez peut-être tous vu cette image-là, qui est une image qui a été produite par IBM à la fin des années 80, où Don Egler, pour la première fois, a réussi à positionner des atomes de xénon sur une surface avec un microscope à effet tunnel. D'accord ? Et c'était un peu le début de la nanoscience ascendante, c'est-à-dire essayer de construire des objets, des nanosystèmes, à partir d'atomes. Depuis 20 ans ont passé, et de plus en plus de choses de plus en plus spectaculaires sont faites dans les labos, sans que ça ait forcément un intérêt pratique, simplement pour étudier et comprendre les propriétés de la matière à cette échelle et essayer de développer des méthodologies de construction. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui a été fait, par exemple, récemment, en 2006, par Paul Rosemond à Caltech. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé des brins d'ADN pour construire des nanosystèmes. D'accord ? Donc, il a écrit un script, MATLAB ou MAPLE, qui fait la chose suivante, qui lui dit que s'il veut obtenir un carré, un rectangle, une étoile, un smiley, il doit utiliser la séquence d'ADN A, C, C, G, T, T, C, A, etc., qui va faire en sorte que s'il met un brin d'ADN avec cette séquence en solution, qu'il secoue l'éprouvette, l'ADN va se replier automatiquement dans les formes souhaitées. D'accord ? Et ça marche. Ça, ce sont les vrais nano-objets conçus à partir de brins d'ADN qui ont été déposés sur une surface et visualisés avec un microscope à effet tunnel. D'accord ? Puis, des gens ont réussi à faire des nano-objets à trois dimensions, donc des tétraèdres, des cubes, etc. Et donc, une des approches suivies actuellement pour la nanoscience ascendante, c'est la technologie ADN. D'accord ? Tout simplement parce que l'ADN est très collant et qu'on peut vraiment contrôler la façon dont il se colle. D'autres exemples de nanosystèmes, de nanosciences ascendantes, ce qui s'est fait à Toulouse récemment, donc au CMS, ils ont fait la première nanoroue. Donc elle ne paye pas de mine, mais elle a fait la couverture de Nature. Parce que, encore une fois, à cette échelle-là, on n'a pas l'intuition du comportement des objets. Et donc les premières roues qu'ils essayaient de faire s'affaissaient, parce qu'elles n'étaient pas assez solides, glissaient sans rouler, parce qu'elles collaient, par exemple. D'accord ? Et ce qu'on fait ici, c'est beaucoup de simulations pour un modèle donné, exactement comme quand on conçoit une voiture. Pour un modèle donné, ils ont fait une simulation pour voir si elle roulait. Ils ont essayé plein de modèles, et quand ils ont eu l'impression d'obtenir un bon modèle théorique, ils ont donné la formule aux chimistes de leur groupe qui ont conçu la roue, vérifier qu'elle pouvait être poussée avec la pointe d'un microscope AFM, donc à force atomique, et qu'elle roulait effectivement. D'accord ? Les roues s'emboîtent bien, etc. D'accord ? Depuis, ils ont fait d'autres objets que je ne vous montre pas, mais qui sont essentiellement des voitures. Donc ils ont mis des roues bout à bout, ils essayent de faire des nanobrouettes, ça n'a aucun intérêt, d'accord ? Mais c'est un intérêt théorique, d'accord ? De développer, encore une fois, des méthodologies de construction. Et donc des gens pensent qu'un jour, on sera capable de faire des objets comme ça. Donc pour le moment, on fait des simulations et des modèles, mais personne n'est capable de faire ça. Mais ce n'est pas complètement idiot, parce que vous avez peut-être vu en biologie ce système-là, qui est un moteur ATP synthase. D'accord ? Donc c'est un ensemble de protéines fixées dans une membrane qui transforme l'ATP en ADP et inversement suivant le sens de rotation. D'accord ? Donc vous avez un stator, un rotor, toute cette partie-là tourne. D'accord ? Et donc on a des milliards de ces moteurs biologiques-là dont on pourrait peut-être s'inspirer pour construire des nanomoteurs artificiels. D'accord ? Donc ce n'est pas complètement irréaliste d'imaginer un jour des nanomoteurs artificiels. Bref, sans doute, de même que des logiciels ont été développés pour le système, les avions, les voitures, sans doute il faudra des algorithmes sophistiqués pour faire de la conception assistée par ordinateur. D'accord ? Donc il faudra faire deux choses, la modélisation, dessiner les nano-objets, dessiner la voiture, et la simulation, le calcul du mouvement, ou plus généralement des propriétés physiques, optiques, électroniques, etc. D'accord ? D'une façon très semblable à la conception de macrosystèmes. D'accord ? Donc, pour revenir aux arbres et une version un petit peu plus sophistiquée, ou une nouvelle version d'un parcours d'un arbre, c'est-à-dire un parcours d'arbre avec une file de priorité, je vais vous montrer brièvement un algorithme de simulation de molécules. Le premier problème qu'on doit se poser si on veut essayer de simuler des molécules, c'est de savoir la représentation qu'on va adopter. D'accord ? Vous savez qu'à un moment, il faudrait résoudre Schrödinger, mais c'est trop long. On fait de la mécanique newtonienne, par exemple. Donc, par exemple, on va dire que pour modéliser une petite molécule, on va tout simplement représenter les atomes. Donc, bon, ça, c'est un code couleur standard des chimistes. Donc, blanc, hydrogène, bleu, azote, gris, C, carbone, et rouge, oxygène. Donc, on a une représentation, c'est qu'un modèle, mais on part de celle-là, c'est hypothèses de la simulation. Pour modéliser le mouvement des molécules, ce qu'on va faire, c'est dire qu'on groupe les objets, les atomes dans des petits objets rigides connectés par des liaisons. D'accord ? Et donc on va avoir cette fois une représentation du mouvement de la molécule en disant qu'elle se comporte comme un objet articulé. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est le dogme, d'accord ? C'est un modèle possible. Et donc, on va dire que la molécule se comporte comme un objet articulé. Sa forme va être donnée par les angles. Et l'inconnu de la simulation, ce sera les accélérations des angles. D'accord ? Ce problème-là, calculer les accélérations d'un objet articulé, c'est un problème fondamental dans énormément de domaines. En robotique, en réalité virtuelle, graphique, dans les jeux vidéo, les films, etc. Donc, énormément de gens ont travaillé dessus. Et un algorithme qui a été proposé, par exemple, c'est l'approche divisée pour régner par Featherstone, qui est un roboticien australien. Et là, ça doit faire tilt, normalement. Divisée pour régner, vous devez penser à arbre. D'accord ? Donc, effectivement, on va représenter un objet articulé comme un arbre, par un arbre, en disant que les objets rigides vont être les feuilles de l'arbre. D'accord ? Et on va assembler ces objets rigides deux par deux. Donc, on va faire des paires d'objets rigides. Puis, on va faire des paires d'objets rigides, puis la molécule finale sera une paire d'objets rigides. D'accord ? Donc là, ça marche très bien, l'arbre est parfaitement équilibré parce que j'ai pris 8 objets rigides, mais on peut faire cette décomposition avec n objets rigides, et on essaye de s'arranger pour que l'arbre soit le plus équilibré possible, donc par exemple, en coupant récursivement la molécule en deux, ou le système moléculaire en deux, de façon à équilibrer le nombre d'atomes de chaque côté. D'accord ? Donc on a un arbre, et dans cet arbre, donc, je répète, les feuilles vont être les objets rigides, et les nœuds internes vont représenter les angles. D'accord ? La racine, ici, va représenter l'articulation entre ces deux sous-objets articulés. Ces deux nœuds-là vont représenter ces angles, ici, entre ces deux sous-objets articulés, du sous-objet articulé droit. D'accord ? Et ainsi de suite. Featherstone a montré qu'on peut généraliser somme des forces égale MA pour les objets articulés. Donc c'est essentiellement somme des forces égale MA, c'est juste un tout petit peu plus compliqué parce que vous avez des contraintes cinématiques entre les objets rigides. D'accord ? Si j'applique, donc supposez que ça c'est mon objet articulé, si j'applique une force ici, ça a un impact sur l'accélération des autres objets rigides. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre dans un vecteur, ici, les accélérations des objets rigides. Donc, chaque composante A1, A2, A3, etc., sont des accélérations à 6 degrés de liberté, qui prennent en compte les translations et les rotations des objets rigides. Ici, on a les forces appliquées sur ces objets rigides. Là, on a alors l'inverse de la masse. Et ce qui est important, c'est que cette masse est symétrique, mais non diagonale. D'accord ? Quand vous avez un objet rigide, sa masse en translation est la même dans toutes les directions. D'accord ? Mais si vous avez un objet articulé, par exemple un cylindre, si j'applique une force sur cette partie-là du cylindre, si j'applique une force dans cette direction, je ne sens que la masse de cet objet-là. D'accord ? Parce que celui-là n'est pas entraîné. D'accord ? Puisque ce mouvement est permis. Par contre, si j'applique une force sur cet objet-là, mais dans cette direction, alors j'entraîne aussi cet objet-là, et donc je sens deux masses. D'accord ? Tout ça pour dire que même en translation, la masse d'un objet rigide est représentée par une matrice, quand cet objet rigide fait partie d'un objet articulé. D'accord ? C'est pour ça que cette matrice ici peut être dense, et bien qu'elle soit symétrique, positive, définie, elle est non diagonale. Dans les accélérations de biais, ici, ce qu'on met sont les accélérations de Coriolis, etc. Je vais juste accélérer un petit peu. Donc l'algorithme de Featherstone, pour simuler ces objets articulés, ça consiste en deux passes, deux parcours d'arbre. Un premier parcours d'arbre ascendant, dans lequel on va calculer les coefficients B et phi, mais ce n'est pas important. Donc on peut dire que la masse d'un sous-objet articulé, la masse d'un objet articulé est déduite des masses des deux sous-objets articulés. Et ensuite, on va faire un parcours descendant pour calculer les accélérations, c'est-à-dire les inconnues du problème. D'accord ? Donc vous voyez que c'est bien une approche divisée pour régner. Si j'ai cet objet articulé là, je vais d'abord calculer cette accélération ici. Ensuite, je vais avoir deux problèmes indépendants. Je vais calculer l'accélération d'un joint ici. Je vais découper en deux, etc. etc. D'accord ? Donc vous voyez que si j'ai n processeurs, j'ai une complexité logarithmique, d'accord ? Puisqu'on a supposé que l'arbre était bien équilibré. Ça marche très très bien, ces algorithmes, c'est utilisé dans plein d'applications, mais par contre, vous voyez que c'est linéaire, d'accord ? La complexité de cet algorithme est linéaire, puisqu'il faut passer par tous les nœuds en descendant et tous les nœuds en montant, d'accord ? Donc ça peut être potentiellement trop long si vous voulez simuler des objets compliqués, comme l'enveloppe du virus de la fièvre aphteuse, qui contient 300 000 atomes à peu près, une microtubule, les microtubules sont des fils dans les cellules qui... Pardon. Donc c'est trop long. Et donc, c'est là qu'on en vient au parcours avec fil de priorité d'un arbre. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une simulation adaptative. L'idée qu'on va utiliser, c'est qu'on ne va simuler qu'une partie des angles du système. D'accord ? Donc, par exemple, si je reviens à la tétraalanine ici, représentée par cet arbre binaire-là, je vais laisser à l'utilisateur la possibilité de dire qu'à chaque instant, je ne vais simuler que 3 angles parmi les 7. D'accord ? Du coup, je vais réduire le temps de calcul. Et tout le problème, c'est évidemment de trouver le bon sous-arbre qui constitue la meilleure approximation du mouvement complet à chaque instant. D'accord ? Pour faire ça, on peut formaliser, donc introduire une métrique rigoureuse pour choisir le meilleur sous-arbre. Par exemple, en définissant A, qui va être une somme pondérée des carrés des accélérations. Des carrés des inconnus. Donc vous supposez que AI est une matrice, est un poids, une matrice positive. Les QI point point sont les accélérations des degrés de liberté, d'accord ? Donc ça, c'est essentiellement une somme des carrés des accélérations des joints, des articulations. D'accord ? Intuitivement, ça représente la quantité de mouvement interne à un objet articulé. D'accord ? Imaginez que cette somme-là soit nulle. Vu que c'est une somme de termes positifs, ça veut dire que chacun des termes est nul. Et donc, que chaque accélération est nulle. D'accord ? Par exemple, sur ce cas-là, si j'imagine qu'à un instant donné, les accélérations sont 3, moins 6, 6, moins 3, 2, etc., alors A vaudrait 96, parce que si on prend les matrices A comme les matrices identité, alors l'accélération vaudrait 96, parce que c'est 3 fois 3, plus moins 6 fois moins 6, plus 6 fois 6, etc. D'accord ? On peut démontrer que on peut, et c'est là le point principal, on peut démontrer qu'on peut calculer cette somme des carrés des accélérations en temps constant, avant même de calculer chacune des accélérations. D'accord ? C'est une démonstration très bête, par récurrence sur la hauteur de l'arbre. Mais on peut démontrer qu'on peut, si je reviens à cet exemple, calculer 96 avant même d'avoir calculé 3, moins 6, 6, etc. D'accord ? On va se servir de ça pour faire un parcours avec priorité des nœuds de l'arbre. Supposons qu'on commence comme l'algorithme de Featherstone et qu'on essaye de déterminer les trois angles qui bougent le plus, d'accord, les trois accélérations les plus importantes. Je sais que je peux calculer cette somme ici et qu'elle vaut 96, d'accord ? Et je suppose aussi que l'utilisateur de l'algorithme m'a autorisé à calculer trois articulations, trois accélérations. D'accord ? Donc je calcule la première, et à cet instant-là de l'algorithme, j'ai partitionné le système en deux objets rigides. D'accord ? J'ai supposé que cette articulation va être simulée ici, donc on a une couleur par objet rigide, on a pour le moment deux objets rigides qui bougent avec une articulation. Du coup, grâce au théorème précédent, on sait qu'on peut calculer la somme des carrés des accélérations à gauche et à droite. D'accord ? Donc 81 à gauche et 6 à droite. Et c'est là qu'on va utiliser une file de priorité. Donc Gilles vous a dit qu'on utilisait une file pour parcourir un arbre de façon transverse. Si je veux donner une priorité au nœud, je remplace cette file par une file de priorité. D'accord ? Donc j'insère ces deux nœuds-là dans la file, celui-là est en tête, donc je descends d'abord de ce côté-là, c'est-à-dire que je calcule cette accélération-là. D'accord ? Donc pour le moment, j'ai concentré les calculs dans ce sous-arbre-là, et je continue récursivement. Maintenant, j'ai trois nœuds dans ma file de priorité. Ce nœud-là a la priorité la plus importante. D'accord ? Alors vous savez que 36, c'est parce que c'est 6 fois 6, mais l'algorithme ne le sait pas, ça pourrait être 6 fois 6, ou moins 6 fois moins 6. Ici, la somme des carrés des accélérations va être 6, donc bien qu'on ait 3 joints, on a un petit total, donc il vaut mieux calculer cette accélération-là. D'accord ? Et on s'arrête, puisque l'utilisateur nous a dit qu'on calculait seulement 3 accélérations. D'accord ? Donc là, vous avez un parcours d'arbre qui est à peine plus sophistiqué. On a remplacé une file par une file de priorité pour guider le parcours de l'arbre et faire une simulation adaptative qui concentre les calculs au bon endroit. D'accord ? Ça, c'est qu'une partie du problème. La deuxième partie du problème, c'est calculer les forces interatomiques. Vous faites ça avec les arbres que vous connaissez. D'accord ? Donc, on va associer un arbre de boîte englobante à la structure. Et grâce à ces boîtes, on va pouvoir détecter les collisions. Pour conclure, je vous fais juste une démo du programme. Donc, ça va fonctionner comme ça. Donc là, vous avez une situation typique de, donc c'est pas une vraie situation, mais c'est une situation typique de conception de médicaments. Concevoir un médicament, c'est, alors vous savez que les protéines ont une certaine séquence, et donc elles se replient en une certaine forme, et c'est parce qu'elles se replient en une certaine forme qu'elles vont s'emboîter avec d'autres protéines, d'accord ? Essayer de concevoir un médicament, c'est faire une petite molécule qui va s'emboîter entre deux protéines, en gros. D'accord ? Et donc il faut être capable de concevoir des petites molécules qui vont bien s'emboîter. Donc il faut être capable de simuler très rapidement, de calculer très rapidement les interactions entre une protéine et une petite molécule candidate, un médicament candidat. Donc ici, la grosse molécule jouerait le rôle de la protéine et la petite molécule du ligand du médicament candidat. D'accord ? Ici, vous avez les objets rigides et vous avez 356 angles dans la grosse molécule et 9 angles dans la molécule de droite. Et vous pouvez choisir de rigidifier les molécules et donc de n'avoir aucun degré de liberté actif, aucun joint actif à chaque instant. Autrement dit, vos molécules se déplacent comme des objets rigides et s'emboîtent l'une dans l'autre comme des objets rigides. D'accord ? Donc ça donne une première intuition aux biologistes, mettons, de l'emboîtement des deux molécules. Mais ce n'est pas suffisant parce que les biologistes savent bien qu'il va y avoir une déformation induite par l'appariement. Et donc, il faudrait idéalement simuler la flexibilité de la molécule. D'accord ? Mais si vous avez une molécule trop grosse, ça va prendre trop de temps, surtout si vous voulez le faire sur un ordinateur portable ou un iPhone. Donc, vous pouvez choisir de n'activer que quelques degrés de liberté. Donc là, par exemple, j'en active 9 parce qu'il y en a 9 dans le ligand ici. Et vous voyez que cette région est plutôt stable à cet instant-là, mais que si je rapproche la petite molécule ici, alors l'algorithme dont je viens de vous parler concentre les calculs automatiquement dans cette région. D'accord ? Donc, on fait une simulation adaptative sous la contrainte de précision imposée par l'utilisateur. Et pour faire ça, l'algorithme adaptatif, donc qui a concentré le calcul des accélérations dans cette région-là, a rigidifié cette partie-là. D'accord ? Si je déplace maintenant la molécule ailleurs, vous voyez que le sous-arbre de l'arbre d'assemblage va être mis à jour à chaque instant sous les contraintes de précision de l'utilisateur. D'accord ? Donc ça, ce n'était pas un vrai exemple biologique. Ça, par contre, c'est un vrai exemple biologique. C'est la protéase du VIH. Donc vous savez qu'il n'y avait pas de vaccin, mais il y a des médicaments qui ralentissent la propagation du virus, et les premiers qui ont été découverts fonctionnent comme ça. Alors, ce que vous avez en vert et en rouge, c'est la protéase du VIH, c'est-à-dire deux protéines qui s'ouvrent et se ferment comme ça, comme des ciseaux, et qui découpent une chaîne. Et une fois que cette chaîne est découpée, les pièces se réassemblent. D'accord ? Donc, les ciseaux, là, font partie du mécanisme de réplication du VIH. Et donc, les premiers médicaments qui ont été conçus ont été des molécules comme les petites molécules, donc là j'ai représenté que les silhouettes, comme les petites molécules jaunes et bleues, pour scotcher les ciseaux. D'accord ? Donc le but, ça a été de trouver des petites molécules qui interagissent fortement avec le site actif de la protéase pour scotcher les ciseaux et les empêcher de découper une chaîne. D'accord ? Et donc, un problème important, c'est de comprendre ce mécanisme d'ouverture, etc., etc. De comprendre le placement des molécules dans le site actif, etc. Et une dernière démo pour conclure, parce qu'elle était faite par un camarade à vous, donc Arnaud Cavaillès, qui était en 2005, qui avait fait un stage chez nous. Alors vous avez sans doute entendu parler du protein folding, le repliement des protéines. Donc vous savez qu'on connaît le génome humain, on connaît les séquences, mais on ne connaît pas la forme des protéines. Et déterminer la forme d'une protéine expérimentalement, c'est-à-dire faire un cristal, l'envoyer à un synchrotron, faire une structure, inverser, etc., et déterminer la structure expérimentalement, donc ça prend énormément de temps. Et donc, pas mal de gens, chercheurs en informatique, essayent de trouver des algorithmes pour, à partir de la séquence, alanine, proline, etc., vont essayer de replier automatiquement, de trouver la forme de la protéine. D'accord ? Et donc, en fait, on essaye de minimiser l'énergie, de minimiser une fonction dans un espace à n dimensions, donc c'est très difficile. Et ce qu'avait fait Arnaud, c'est une méthode pour ici essayer de pousser en fait, la molécule dans tous les sens. Donc essentiellement, il fait du Monte Carlo et du Metropolis, donc vous voyez que ça ne sert pas que dans la finance. Il fait du Monte Carlo et du Metropolis, vous avez l'énergie qui s'affiche en haut à gauche, et il essaye de, en déformant la molécule, trouver l'énergie qui minimise, trouver la configuration qui minimise une énergie. D'accord. Mais ça... Donc voilà, là maintenant on est en train d'essayer d'étudier les propriétés statistiques de l'échantillonneur proposé par Arnaud. Voilà. C'est tout pour moi. C'est un problème très très large, donc si vous cherchez des stages, etc., il y a plein de problèmes, que ce soit en modélisation physique, statistique, mathématique, algorithmique, visualisation, réalité virtuelle, faire du contrôle, etc., la vérification, simulation des instruments. Donc n'hésitez pas à faire une carrière en informatique. C'est tout.